Bien, alors nous allons continuer avec les sept paroles que le Seigneur Jésus a prononcées sur la croix. Ce ne sont pas des enseignements, mais bien sûr, dans tout ce que le Seigneur Jésus a dit, il faut reconnaître que tout est profond, tout est fondateur, et donc nous allons essayer aussi d'en retirer des enseignements. Je suis conscient que il convient d'aborder ces paroles avec beaucoup de respect. Avec aussi beaucoup de sobriété, parce que la parole de Dieu est sobre quant au récit de la croix. Donc je vais essayer aussi d'être sobre dans mes commentaires. D'abord, je veux faire remarquer que, donc elles sont au nombre de sept, vous l'avez remarqué, ça évoque bien sûr la perfection, et c'est sûrement par hasard qu'il y en a sept. En même temps, c'est fortuit, puisque il ne faut pas y voir une volonté des rédacteurs des évangiles de faire coller à sept paroles, puisque pour avoir les sept, il faut aller chercher dans les quatre évangiles. Donc il faut reconnaître que ça aurait été un petit peu difficile pour eux de se mettre d'accord pour qu'il y en ait exactement sept. Donc ceci a été guidé par Dieu, me semble-t-il. Et je veux aussi souligner qu'il y a une symétrie dans ces paroles. Vous avez peut-être remarqué que la première, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, s'adresse au Père. La dernière également. La première et la septième. Celle du milieu s'adresse aussi au Père, mais à Dieu. Il appelle Dieu. Et puis, intercalé entre ces trois paroles axiales, qu'on pourrait appeler axiales, il y a deux paroles adressées à des êtres humains, à des croyants d'abord, puis à un pécheur repentant. Et puis, la cinquième et la sixième, on peut dire, sont assez universelles. L'une s'adresse à tous les hommes, à l'humanité. Et l'autre est un petit peu prononcée à la cantonade, on pourrait dire qu'elle s'adresse à tout l'univers. Vous voyez, il y a comme une construction dans la chronologie de ces paroles. Je fais remarquer que c'est le Père au début, le Père à la fin, et Dieu au milieu, parce que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, le Seigneur, on peut dire, ne goûte plus de la même manière sa relation avec Dieu comme avec son Père, puisqu'il est abandonné de Dieu, d'où l'expression mon Dieu et non pas mon Père. Alors on va les prendre une par une et je vous propose trois choses pour chacune d'elles. C'est d'ailleurs une méthode d'étude que je vous suggère quand on lit les évangiles, un paragraphe des évangiles ou même un récit de l'Ancien Testament. Première chose, quelle est la portée doctrinale de cette parole? Est-ce que ça aurait un sens doctrinal qui est caché derrière? Qu'est-ce que cela nous apprend sur le Seigneur Jésus, sur sa personne? Et puis, un côté un peu plus pratique, quelle leçon est-ce qu'on peut en retirer pour nous, pour notre vie de chrétien? Alors j'essaierai de respecter ce code de couleur. Première parole, donc, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Bon, sur un plan doctrinal, on peut dire que c'est une sorte de résumé de la mission du Seigneur Jésus. Hein, il était là, le Seigneur Jésus est venu pour être en quelque sorte entre le ciel et la terre, au moment où il est crucifié, il est là entre ciel et terre. Avec les hommes d'un côté, Dieu au-dessus, et il est là pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc il implore le pardon divin sur l'humanité, qui l'a rejeté, qui le crucifie, qui est pécheresse. Et c'est ce que nous dit 2 Corinthiens 5, verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voilà. Il était là pour faire cet acte de réconciliation, et on peut dire qu'il l'exprime ici au travers de cette prière. Deuxième chose, par rapport au Seigneur Jésus, on peut remarquer sa cohérence. Jésus a dit, Jésus a fait. Jésus a dit qu'il fallait prier pour ceux qui nous persécutent, qui nous font du tort. Et il est là, persécuté, crucifié, et donc il prie pour ceux qui lui font du tort. Il applique ce qu'il a enseigné aux autres. Et puis, troisièmement, pour nous, voilà, imaginons-nous aussi dans une situation où des personnes nous font du mal, nous font du tort, nous font souffrir, sont désagréables avec nous. Est-ce qu'on va avoir un regard vengeur, un regard d'indignation vis-à-vis de ces personnes? Ou bien est-ce qu'on est capable aussi, comme le Seigneur Jésus, de passer par-dessus tout ça et d'avoir un regard de compassion? Voilà. Ils ne savent ce qu'ils font. Comme pour dire, ils sont un petit peu des marionnettes de quelque chose qui les dépasse. Bon, voilà, c'est un petit peu Satan qui les agite. Est-ce que vous arrivez à voir quelqu'un qui vous fait du tort comme un jouet de Satan, une victime du diable? Hein, je pense que c'est toujours bien de détacher le mal de la personne, et de voir toujours dans une personne qui fait mal quelqu'un qui est plus victime que acteur. Un regard de compassion. Voilà, le Seigneur a toujours eu ce regard de compassion et là jusque à ce moment où on le fait terriblement souffrir. Je passe à la deuxième parole. Donc il va s'adresser à Marie, il lui dit « Femme, voilà ton fils » et juste après « Fils, voilà ta mère », il s'adresse ici à Jean, son disciple. Donc finalement il confie sa mère, Marie, à son disciple Jean. Bon, portée théologique de ce passage, on peut y voir un embryon de la famille, de la foi. Hein. Voilà, fils, mère, dans les rachetés, les croyants vont former une famille. Nous sommes tous enfants de Dieu et donc nous sommes appelés à avoir des relations de type familial entre nous. La famille, c'est un cercle où il y a de l'affection, où il y a un sentiment aussi d'un patrimoine commun. Et c'est vrai que quelquefois on le ressent, on rencontre un chrétien congolais ou algérien ou de n'importe quelle nation, ou japonais, et tout d'un coup on se sent de la même famille. C'est quand même quelque chose de bouleversant de vivre ça. Mais l'Église est une famille. Et Paul aussi dit à Timothée que quand on s'adresse à un croyant, voilà, les sœurs âgées, il faut s'adresser comme à des mères, les frères âgés comme à des pères, les jeunes sœurs comme des sœurs, les jeunes frères comme des frères. Donc, voilà, des relations de type familial. L'Église est une famille. Deuxième chose, par rapport au Seigneur Jésus, il a une parole, il a le souci du devenir de sa mère. Et c'est quand même, c'est beau de voir ça. Dans ce moment où il aurait pu peut-être penser un peu à lui-même, il est face à la mort, il oublie sa propre souffrance et il est soucieux de ce que quelqu'un s'occupe de sa mère, parce qu'il est quand même le fils aîné de la famille, il se sent cette responsabilité de ce qu'elle soit protégée, qu'elle soit accueillie. À l'époque, la société n'était pas organisée comme elle l'est aujourd'hui. Donc il est sensible à la souffrance de sa propre mère. Et ça nous montre à quel point le Seigneur était vraiment sensible. Il n'était pas indifférent à ce qui se passait autour de lui. Et ça nous montre à quel point, pour nous aussi, il est capable d'entrer dans nos souffrances. Lui qui a pourtant connu des souffrances qui dépassent complètement ce que nous pouvons vivre, il est quand même au fait de ce que nous vivons en même temps. Alors on peut être certain qu'il sympathise. Il sympathise avec tout ce que nous pouvons vivre chaque jour. Comme c'est dit dans Hébreu, nous avons un souverain sacrificateur qui sympathise à nos maux, qui a été tenté en toutes choses comme nous à part le péché. Et puis alors, c'est aussi un exemple pour nous de nous montrer responsables. Peut-être que quelquefois, je vais prendre quand même un cas qui me concerne, un professeur peut être fatigué, un père de famille peut être aussi fatigué, aussi triste ou aussi soucieux, mais ça ne doit pas pour autant l'exempter de ses responsabilités. Voilà. Il faut savoir, si on est soi-même dans la difficulté, être toujours capable de faire face à nos responsabilités. Je crois que c'est quand même un témoignage qu'un chrétien doit donner, même lorsque lui-même est dans la difficulté, il n'oublie pas ses responsabilités, il ne laisse pas tout tomber. Voilà, il est aussi là pour porter les autres. Et c'est, je crois, il faut une force qui vient de Dieu pour arriver à s'oublier soi-même au moment le plus difficile, pour se montrer protecteur. On le voit bien aussi quand le Seigneur est arrêté. Voilà, laissez aller ceci. Il se préoccupe surtout de ce que vont devenir ses disciples. La bienveillance jusqu'au bout, alors que c'est lui-même qui est visé, lui est préoccupé de la protection de ses disciples. Troisième parole, donc qui s'adresse aux brigands. En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, je crois que c'est une parole très importante par rapport au salut. Elle nous montre bien que la repentance et la foi suffisent pour être sauvés. Parce que par exemple, ce brigand n'a pas été baptisé, on est bien d'accord, il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Toutefois, il y a quand même deux choses qu'il a dites qui sont très importantes. C'est dans les versets qui précèdent, au verset 41 et 42, il dit que « Pour nous, nous y sommes justement, nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. » Donc il y a un acte de repentance chez lui. Et puis il dit ensuite « Souviens-toi de moi, Seigneur. » Voilà, il confesse Jésus comme Seigneur. Donc la repentance et la foi et le fait de confesser Jésus comme Seigneur, eh bien, suffisent pour être sauvés. Je crois que ça remet le baptême à sa place de acte symbolique qui montre bien sûr qu'on est entré dans cette vie nouvelle, mais pour autant c'est bien un acte intérieur, un acte de cœur qui fait que nous sommes sauvés. Encore une fois, pour ce qui concerne le Seigneur Jésus, on peut remarquer sa cohérence. Jésus a dit, Jésus a fait. Parce que c'est vrai que dans un autre évangile, c'est dans Matthieu, Matthieu 27, il est dit qu'au début, les deux brigands qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc on a l'impression que ce brigand, quelques minutes avant, il était en train encore d'insulter le Seigneur Jésus. Et puis tout d'un coup, quand même, il a été repris dans sa conscience. Et là, il a demandé pardon. Il a reconnu qu'il est là parce qu'il méritait. Et il a reconnu que Jésus, lui, n'avait rien fait de mal. Donc, je trouve que c'est une bonne illustration de ce que Jésus a enseigné. Si ton frère vient à toi 7 fois le jour, hein, s'il pêche contre toi 7 fois par jour et que 7 fois il se repent, tu lui pardonneras. On va dire, mais il y a encore quelques minutes, il m'a demandé pardon, il recommence, il faut encore que je pardonne. Ça va très vite tout ça. Eh bien oui, c'est ça le pardon. Voilà. Pardonner, c'est pas que on prend le temps dans sa tête d'être prêt à pardonner. Bon, ceci étant dit, peut-être que quelquefois, il y a des pardons qui sont difficiles. Hein. On n'est pas le Seigneur Jésus, nous. Mais là, le Seigneur nous montre vraiment un exemple d'un pardon immédiat qui est comme un cadeau que l'on fait, quoi, hein, sans qu'il y ait une réflexion. Voilà. Le Seigneur applique ce pardon immédiat. Si ton frère revient, tu lui pardonneras. Il lui pardonne même les insultes qu'il a fait quelques minutes auparavant, puisqu'il lui promet d'être avec lui dans le paradis. Bon, c'est vrai que j'insiste un peu sur la cohérence, on le voit encore ici. C'est important quand même qu'un fondateur d'une religion soit cohérent. Si je peux me permettre une comparaison, je ne sais pas si elle vaut la peine d'être faite, mais il faut quand même qu'on sache. Si on prend Mahomet par exemple, donc c'est dans la sourate 4 à partir du verset 23 qui réglemente le mariage et qui dit qu'un homme ne peut pas épouser sa belle-fille par exemple. Et il se trouve que Mahomet a rencontré un jour, enfin est tombé amoureux de sa belle-fille, la fille de Zayd. Et donc, eh bien, il a fait écrire une nouvelle sourate disant que le prophète, quant à lui, pouvait épouser qui il voulait. Et donc, il a épousé la fille de Zayd. Voilà. Donc, vous voyez, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors que le Seigneur Jésus, lui, non seulement il fait ce qu'il dit, mais il va même, il le fait dans une dimension qui nous dépasse, quoi. Et c'est ça qui est vraiment beau dans ce chef qui est devant nous. Et donc, il est bien digne d'être suivi. Ensuite, pour nous, un encouragement. Donc, il lui dit bien qu'aujourd'hui même, il va être avec lui dans le paradis. Ça veut dire que lorsque nous mourrons, eh bien, nous sommes avec le Seigneur. Hein, si on n'avait que Luc 16, on penserait qu'on est avec les hommes de foi, avec les élus, avec Abraham, le Saint d'Abraham. Mais on sait que dans Philippiens 1, 23, il nous est dit « Déloger et être avec Christ, c'est de beaucoup meilleur. » Donc, ce qui nous attend après la mort, c'est d'être non seulement dans le paradis, donc un lieu, un jardin de délices, un lieu de repos, de bonheur, mais où nous ressentirons en tout cas la présence du Seigneur Jésus. Quatrième parole, donc la parole centrale. Donc le Seigneur ressent à ce moment-là, c'est dans les 3 heures sombres, l'abandon de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors on peut dire que c'est le seul moment où le Seigneur a un petit peu perdu la communion avec le Père. Bon, c'est l'accomplissement d'une prophétie, hein, c'est ce qu'on peut dire sur le plan théologique. Donc c'est l'accomplissement du psaume 22 qui commence justement par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On peut dire que la réponse à ce pourquoi se trouve dans Ésaïe 53. « Certainement, lui a porté nos langueurs, s'est chargé de nos douleurs. Nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu. » C'est comme ça qu'on pouvait peut-être analyser la situation sur place et affligé. « Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. » Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc je l'ai dit, pour ce qui concerne le Seigneur Jésus, c'est intéressant de rapprocher cette prière, ce cri de détresse, de ce qu'il dit par exemple dans Luc 11, lorsqu'il va demander à Dieu de ressusciter Lazare, il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu, or moi je savais que tu m'entends toujours. » Voilà, il savait que Dieu l'entendait toujours. Il n'y avait pas d'interruption dans sa relation avec son père, mais à ce moment-là, c'est particulier. Il est chargé de nos péchés, et donc on peut vraiment dire qu'il est abandonné de Dieu. Ce que nous dit Lamentations 3, verset 8. « Même quand je crie et que j'élève ma voix, il ferme l'accès à ma prière. » Et puis, sur le plan pratique, pour nous, peut-être qu'il peut nous arriver d'avoir une prière qui ressemble à celle-là. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des moments d'amertume, des pourquoi ? Les pourquoi. Quel est l'être humain qui n'a jamais eu un pourquoi dans sa vie? Eh bien, je crois que Dieu est prêt à entendre nos pourquoi, puisqu'il a entendu ceux du Seigneur Jésus. mon Dieu, pourquoi? Il y a une sorte d'amertume, bon, qui est soumise, bien sûr, dans la bouche du Seigneur Jésus, mais une incompréhension, enfin une souffrance qui arrache ce sentiment d'amertume. Donc, à l'image de Job aussi, qui exprime assez souvent des paroles d'amertume, je crois que Dieu est prêt à entendre notre amertume. Le stade au-delà, ce serait l'incrédulité ou la révolte, bien sûr, ça, ce ne sont pas des sentiments que Dieu approuve, mais l'amertume, l'incompréhension par rapport à ce qui nous arrive, je crois que c'est quelque chose que Dieu peut entendre. Donc, il faut ouvrir notre cœur si nous avons des sentiments d'amertume. Et puis ensuite, il dit, j'ai soif. Bon, bien sûr, j'ai soif, ça veut dire qu'il avait soif physiquement, certainement, mais on peut y voir aussi bon, c'est bien sûr l'accomplissement d'une prophétie, hein, psaume 69, verset 21, dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre, mais peut-être aussi d'un autre psaume qui dit, comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Comme je l'ai dit, il est abandonné de Dieu à ce moment-là, et cette soif, derrière cette soif physique, c'est peut-être cette soif morale. Pour lui, être dans ces 3 heures d'abandon, c'est une soif terrible. C'est un manque terrible de ne pas être en communion avec son Père. Alors, sur un plan pratique, on peut se poser la question, de quoi est-ce que j'ai soif? Est-ce que moi aussi, de passer 3 heures sans la communion avec Dieu, ça m'assoiffe spirituellement? Et puis on peut se poser la question, quelles sont mes grandes aspirations? De quoi est-ce que j'ai soif dans la vie? Après quoi je cours? Seigneur Jésus a dit, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Voilà, la justice. Avoir soif de Dieu. Parce que c'est soif vraiment notre soif. Et justement, dimanche dernier, dans mon assemblée, on parlait de. Dans Jean 4, le Seigneur Jésus est avec la femme samaritaine. Ensuite, il y a les gens de la ville qui viennent, puis il va leur parler. Et du coup, il en oublie de manger. Hein, les disciples disent, mais il n'a rien mangé. Puis il leur dit, non, non, vous inquiétez pas, j'ai de la nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Voilà. Lui, ce qui le satisfaisait, hein, qui le nourrissait ou qui étanchait sa soif, c'était de faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous aussi, on est comme ça? Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui vous motive tellement que vous en oublieriez de manger? Est-ce que ça vous arrive comme ça d'oublier? Les maîtresses de maison n'aiment pas ça. Hein. Mais que c'est l'heure de manger, vous voyez, vous êtes absorbé dans quelque chose. Alors, ça serait intéressant de voir quel est ce quelque chose. Voilà, ce qui est quelque chose pour Dieu. Hein. Être vraiment, avoir des soifs, des choses qui nous motivent au point qu'on en oublierait de manger ou de boire. Bon, en même temps, c'est vrai, très simplement, je suis passé un peu vite. Le Seigneur Jésus était parfaitement homme, donc il a connu la soif, on sait qu'il a connu la faim aussi, il a connu à la tentation, au désert, il a été fatigué, on le voit dans Jean 4. Donc ça nous montre, ça nous rappelle qu'il était un homme comme nous et qu'il a ressenti vraiment la condition humaine comme nous. Donc encore une fois, il peut sympathiser. Et puis donc, à la fin, il va pousser ce grand cri. Ça nous est dit dans 2 autres évangiles, il poussa un grand cri, il cria à haute voix, à forte voix, c'est accompli. Donc ça, sur un plan théologique, ça pose quelque chose d'extrêmement important, c'est que le sacrifice du Seigneur Jésus est définitif. Il a été fait une fois pour toutes, c'est ce que nous dit Hébreux chapitre 10, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Voilà, pour les Hébreux, il y avait tous ces sacrifices rituels qu'il fallait répéter. Pour nous, c'est accompli. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. C'est pour ça que la scène n'est pas un sacrifice. La scène est un mémorial. On fait les choses en mémoire de Jésus, mais on ne répète pas un sacrifice. Verset 14 du même chapitre, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Voilà, donc c'est accompli. Et puis, donc, je l'ai dit, il va pousser ce cri avec beaucoup de force. Et ça va surprendre les personnes autour de lui, à tel point que, donc, il y a les rochers qui se fendent, etc. Et puis là, le centurion est obligé de dire, mais cet homme, celui-ci, était fils de Dieu. Certainement qu'il l'a crié avec tant de force que ça a dû paraître incroyable à ce centurion. Parce qu'on dit, enfin je répète ce qu'on m'a dit, que les crucifiés mouraient d'étouffement, c'est-à-dire qu'ils ne mouraient pas d'hémorragie. Les blessures dans les mains et dans les pieds ne pouvaient pas faire une hémorragie très rapidement. Donc ils mouraient d'étouffement, parce que tant qu'ils pouvaient se tenir sur leurs jambes, bon, bien les poumons, elle pouvait respirer normalement, mais au fur et à mesure que l'épuisement vient, peut-être aussi parce que le sang s'en va, le crucifié relâche ses jambes et donc l'étirement des bras lui comprime la cage thoracique et donc il va mourir d'étouffement, donc une mort atroce. Et là, le fait que le Seigneur Jésus ait pu crier, au bout de 6 heures sur la croix, ait pu crier avec tant de force, ce grand cri s'est accompli, a vraiment impressionné le centurion. Donc ça nous montre que le Seigneur, voilà, avait quand même une force surnaturelle. Et puis sur le plan pratique, pour nous, il faut s'accrocher à cet accompli pour nous dire que voilà, le salut ne peut pas être remis en question. Je ne parle pas ici de la perte du salut, c'est une autre question. On sait aussi qu'on ne peut pas perdre le salut, mais nous avons aussi la certitude du salut. Ce n'est pas quelque chose qui va être rediscuté dans l'au-delà, où on pourrait avancer avec une incertitude. Non, qui croit au Fils a la vie éternelle. Voilà, c'est fondé sur le sacrifice accompli du Seigneur Jésus. C'est quelque chose qui est définitif. Et puis j'arrive donc à la dernière parole. Voilà, il va à nouveau s'adresser au Père et il va remettre son esprit entre ses mains. Alors sur un plan doctrinal, ça nous montre ce qui se passe au moment de la mort. Comme il est dit dans l'Ecclésiaste, la poussière retourne à la terre et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc c'est lorsqu'on meurt, notre esprit retourne vers Dieu. Et ici, c'est un peu particulier, le Seigneur le remet entre les mains de son Père. Ça nous montre que quant à lui, c'est un peu différent. Il a autorité sur la mort, c'est-à-dire il dit dans Jean 10, je crois, personne ne me l'ôte, j'ai le pouvoir de la laisser, j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà. On ne peut pas dire que le Seigneur Jésus a agonisé dans ce sens-là. Il a remis sa vie entre les mains du Père au bout des 6 heures sur la croix. Donc le Seigneur a autorité sur la mort, il l'a d'autant plus qu'il en est sorti maintenant, et donc c'est pour ça qu'on lit dans Apocalypse 1, verset 18. J'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Voilà, c'est lui qui tient les clés de la mort et du Hadès, c'est-à-dire qui décide de ce qu'il en est entre les hommes et la mort. Et puis, moi je sens comme une sérénité dans ses paroles, hein, les heures de l'abandon sont passées, il a crié, c'est accompli, donc c'est fait, on peut dire que le fardeau des péchés a été porté, maintenant il entre dans la mort avec sérénité. Et on peut se poser la question, est-ce que moi aussi, à ma dernière heure, j'aurai cette sérénité? Voilà, d'avoir achevé la mission, pas évidemment une aussi grande mission que le Seigneur Jésus, elle est unique, sa mission, mais nous, on a tous un peu une mission à accomplir. Est-ce qu'on pourra aussi partir en paix comme ça, en disant, ben voilà, comme disait Paul, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Bon, c'est peut-être des préoccupations de vieux, comme on dit, mais ça se prépare aussi dans le jeune âge. Une course réussie, hein, c'est une course où on part bien, on continue bien et on termine bien. Voilà, alors je vais faire une conclusion un petit peu globale sur toutes ces paroles qu'on a vues du Seigneur Jésus. Je vais laisser parler l'Écriture. Il y a la conclusion des huissiers qu'on avait envoyés pour arrêter le Seigneur Jésus, puis qui sont revenus bredouilles. Ils n'avaient rien osé faire, hein, et puis ils sont revenus en disant, eh bien, jamais homme ne parla comme cet homme. Voilà, ils avaient été vraiment impressionné par ce que disait le Seigneur Jésus. Il y a aussi la conclusion du centurion qui a entendu ce s'est accompli retentir sur la croix. Certainement, celui-ci était fils de Dieu. Et puis, il y a la conclusion des disciples, de Pierre en particulier, dans laquelle on peut aussi nous se reconnaître. Lorsqu'il leur dit, eh bien, est-ce que vous voulez vous aussi vous en aller? Alors, Pierre répond, eh bien, Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu.